Chapitre 4. Largesse. Ce devait être un bossu de beaucoup d'esprit, malgré l'extravagance qu'il commettait en ce moment. Il avait l'œil vif et le nez aquilin. Son front se dessinait bien sous sa perruque grotesquement révoltée, et le sourire fin qui raillait autour de ses lèvres annonçait une malice d'enfer. Un vrai bossu. Quant à la bosse elle-même, elle était riche, bien plantée au milieu du dos et se relevant pour caresser la nuque. Par devant, le menton touchait à la poitrine. Les jambes étaient bizarrement contournées, mais n'avaient point cette maigreur proverbiale qui est l'accompagnement obligé de la bosse. Cette singulière créature portait un costume noir complet, de la plus rigoureuse décence, manchettes et jabots de mousseline plissée d'une éclatante blancheur. Tous les regards étaient fixés sur lui, et cela ne semblait point l'incommoder. « Bravo, sage Ésope ! » s'écria Chaverny. « Tu me parais un spéculateur hardi et adroit. »«
Hardi ! » répéta Ésope en le regardant fixement. « Assez ! Adroit, nous verrons bien !»
Sa petite voix grinçait comme une crécelle d'enfant. Tout le monde répéta « Bravo, Ésope, bravo !» Cocardas et Passepoil ne pouvaient plus s'étonner de rien. Leurs bras étaient tombés depuis longtemps. Mais le Gascon demanda tout bas « N'avons-nous jamais connu de bossu, mon bon ?»«
Pas que je me souvienne. »«
Viva Dieu ! Il me semble que j'ai vu ces yeux-là quelque part !»
Gonzague aussi regardait le petit homme avec une remarquable attention.
« L'ami, dit-il, on paye comptant, vous savez. »«
Je sais,
répondit Ésope, car, à dater de ce moment, il n'eut plus d'autre nom. Chaverny était son parrain. Ésope tira un portefeuille de sa poche et mit aux mains de Pérol 60 billets d'État de 500 livres. On s'attendait presque à voir ces billets se changer en feuilles sèches, tant l'apparition du petit homme avait été fantastique. Mais c'étaient de belles et bonnes cédules de la compagnie.
« Mon reçu ? » dit-il.
Pérol lui donna son reçu. Ésope le plia et le mit dans son portefeuille à la place des billets. Puis, frappant sur le carnet.
« Bonne affaire ! » dit-il. « À vous revoir, messieurs !»
Il salua bien poliment Gonzague et la compagnie. Tout le monde s'écarta pour le laisser passer. On riait encore, mais je ne sais quel froid courait dans toutes les veines. Gonzague était pensif. Pérol et ses gens commençaient à faire sortir les acheteurs qui déjà eussent voulu être au lendemain. Les amis du prince regardaient encore et machinalement la porte par où le petit homme noir venait de disparaître.
« Messieurs, dit Gonzague, pendant qu'on va disposer la salle, je vous prie de me suivre dans mes appartements.
Allons ! Fit Cocardas derrière la draperie. « C'est le moment ou jamais. Marchons !»«
J'ai peur, » fit le timide Passepoil.
« Et donc, je passerai le premier !»
Il prit Passepoil par la main et s'avança vers Gonzague, chapeau bas.
« Parbleu ! » s'écria Chaverny en les apercevant. « Mon cousin a voulu nous donner la comédie. C'est la journée des mascarades. Le bossu n'était pas mal, mais voici bien la plus belle paire de coupe-jarrets que j'ai vue de ma vie. »
Cocardas Junior le regarda de travers. Navaille, Auriol et consorts se mirent à tourner autour de nos deux amis en les considérant curieusement.
« Sois prudent !» murmura Passepoil à l'oreille du Gascon. « Capé des bioux ! » fit ce dernier. « Ceux-ci n'ont donc jamais vu deux gentilshommes qu'ils nous dévisagent ainsi ?»«
Le grand est de toute beauté !» dit Navaille.
« Moi, » repartit Auriol, « j'aime mieux le petit. »«
Il n'y a plus de niche à louer. Que viennent-ils faire ?»
Heureusement qu'ils arrivaient auprès de Gonzague, qui les aperçut et tressaillit.
« Ah ! » fit-il. « Que veulent ces deux braves ?»
Cocardas salua avec cette grâce noble qui accompagnait chacune de ses actions. Passepoil s'inclina plus modestement, mais en homme cependant qui a vu le monde. Puis Cocardas Junior, d'une voix haute et claire, parcourant de l'œil cette foule pailletée qui venait de le railler, prononça ces paroles.
« Ce gentilhomme et moi, vieille connaissance de Monseigneur, nous venons lui présenter nos hommages. »
Ah ! Fit encore Gonzague.
Si Monseigneur est occupé d'affaires trop importantes, reprit le Gascon qui s'inclina de nouveau, nous reviendrons à l'heure qu'il voudra bien nous indiquer.
C'est cela, balbutia Passepoil. Nous aurons l'honneur de revenir.
Troisième salut, puis ils se redressèrent tous deux, la main à la poignée de la brette.
Pérole, appela Gonzague.
L'intendant venait de faire sortir le dernier adjudicataire.
« Reconnais-tu ces beaux garçons ?» lui demanda Gonzague.
« Mène-les à l'office, qu'ils mangent et qu'ils boivent. Donne-leur à chacun un habit neuf, et qu'ils attendent mes ordres. »«
Ah, monseigneur !» s'écria Cocardas.
« Généreux prince !» fit Passepoil.
« Allez !» ordonna Gonzague.
Ils s'éloignèrent à reculons, saluant à toute outrance et balayant la terre avec les vieilles plumes de leur feutre. Quand ils arrivèrent en face des rieurs, Cocardas le premier planta son feutre sur l'oreille et releva du bout de sa rapière le bord frangé de son manteau. Frère Passepoil l'imita de son mieux. Tous deux, hautains, superbes, le nez au vent, le poing sur la hanche, foudroyant les railleurs de leur regard terrible, ils traversèrent la salle sur les pas de Pérole et gagnèrent l'office où leur coup de fourchette étonna tous les serviteurs du prince.
En mangeant, Cocardas junior disait « Mon bon, notre fortune est faite !»«
Dieu le veuille !»
répondait la bouche pleine frère Passepoil, toujours moins fougueux.
« Ah ça, cousin !» dit Chavernie au prince quand ils furent partis, « depuis quand te sers-tu de semblables outils ?»
Gonzague promena autour de lui un regard rêveur et ne répondit point. Ces messieurs, cependant, parlant assez haut pour que le prince pût les entendre, chantaient un dithyrambe à sa louange et faisaient honnêtement leur cour. C'étaient tous nobles un peu ruinés, financiers un peu tarés. Aucun d'eux n'avait encore commis d'action absolument punissable, selon la loi, mais aucun d'eux n'avait gardé la blancheur de la robe nuptiale. Tous, depuis le premier jusqu'au dernier, ils avaient besoin de Gonzague, l'un pour une chose, l'autre pour une autre. Gonzague était au milieu d'eux seigneur et roi, comme certains patriciens de l'ancienne Rome, parmi la foule famélique de leurs clients. Gonzague les tenait par l'ambition, par l'intérêt, par leurs besoins et par leurs vices. Le seul qui eût gardé une portion de son indépendance était le jeune marquis de Chavernie, trop fou pour spéculer, trop insoucieux pour se vendre. La suite de ce récit montrera ce que Gonzague voulait faire d'eux. Car, au premier aspect, placé comme il était à l'apogée de la richesse, de la puissance et de la faveur, Gonzague semblait n'avoir besoin de personne.
« Et l'on parle des mines du Pérou !» disait le gros Auriol pendant que le maître se tenait à l'écart. « L'hôtel de Monsieur le Prince vaut à lui seul le Pérou et toutes ses mines !»
Il était rond comme une boule, ce traitant. Il était haut en couleur, joufflu, essoufflé. Ces demoiselles de l'opéra consentaient à se moquer de lui amicalement, pourvu qu'il fût en fond et d'humeur donnante.
« Ma foi, répliqua Tarane, financier maigre et plat, c'est ici l'Eldorado. »«
La maison d'or, ajouta Monsieur de Montaubert, ou plutôt la maison de diamants. »«
Ya !» traduisit le baron de Batz. « Tes diamants, plutôt !»«
Plus d'un grand seigneur, reprit Gironne, vivrait toute une année avec une semaine du revenu du prince de Gonzague.
« C'est que, dit Auriol, le prince de Gonzague est le roi des grands seigneurs. »«
Gonzague, mon cousin, s'écria Chavernie d'un air plaisamment piteux, par grâce demande quartier, où cet ennuyeux hosanna durera jusqu'à demain. »
Le prince sembla s'éveiller. « Messieurs, dit-il sans répondre au petit marquis, car il n'aimait pas la raillerie.
« Prenez la peine de me suivre dans mon appartement. Il faut que cette salle soit libre. »
Quand on fut dans le cabinet de Gonzague.
« Vous savez pourquoi je vous ai convoqué, messieurs, » reprit-il.
« J'ai entendu parler d'un conseil de famille, » répondit Navaille.
« Mieux que cela, messieurs. Une assemblée solennelle.
un tribunal de famille où son Altesse royale le régent sera représenté par trois des premiers dignitaires de l'État, le président de Lamoignon, le maréchal de Villeroy et le vice-chancelier d'Argenson.
Peste ! Fit Chaverny. S'agit-il donc de la succession à la couronne ?
Marquis, prononça sèchement le prince, nous allons parler de choses sérieuses. Épargnez-nous.
N'auriez-vous point, cousin, demanda Chaverny en bâillant par avance, quelques livres d'estampes pour me distraire pendant que vous serez sérieux ?
Gonzague sourit afin de le faire taire.
Et de quoi s'agit-il, prince ? Demanda monsieur de Montaubert.
Il s'agit de me prouver votre dévouement, messieurs, répondit Gonzague.
Ce ne fut qu'un cri. Nous sommes prêts.
Le prince salua et sourit. Je vous ai fait convoquer, spécialement vous, Navailles, Gironne, Chaverny, Nocé, Montaubert, Choisy, Lavalade, etc., en votre qualité de parent de Nevers. Vous, Auriol, comme chargé d'affaires de notre cousin de Châtillon. Vous, Tarane et Albret, comme mandataire des deux Châtelux.
Si ce n'est la succession de Bourbon, interrompit Chaverny, ce sera donc la succession de Nevers qui sera mise sur le tapis.
On décidera, répondit Gonzague, l'affaire des biens de Nevers, et d'autres affaires encore.
Et que diable avez-vous besoin des biens de Nevers, vous, mon cousin, qui gagnez 1 million par heure?
Gonzague fut un instant avant de répondre.
Suis-je seul ? Demanda-t-il ensuite d'un accent pénétré. N'ai-je pas votre fortune à faire ?
Il y eut un vif mouvement de reconnaissance dans l'assemblée. Tous les visages étaient plus ou moins attendris.
Vous savez, prince, dit Navailles, si vous pouvez compter sur moi.
Et sur moi ! S'écria Gironne.
Et sur moi ! Et sur moi !
Sur moi aussi, pardieu ! Fit Chaverny après tous les autres.
Je voudrais seulement savoir. Gonzague l'interrompit pour dire avec une hauteur sévère.
Toi, tu es trop curieux, petit cousin. Cela te perdra. Ceux qui sont avec moi, comprends bien ceci, doivent entrer résolument dans mon chemin, bon ou mauvais, droit ou tortueux.
Mais cependant, c'est ma volonté. Chacun est libre de me suivre ou de rester en arrière. Mais quiconque s'arrête a rompu volontairement le pacte. Je ne le connais plus. Ceux qui sont avec moi doivent voir par mes yeux, entendre par mes oreilles, penser avec mon intelligence. La responsabilité n'est pas pour eux qui sont les bras, mais pour moi qui suis la tête. Tu m'entends bien, marquis. Je ne veux pas d'amis faits autrement que cela.
Et nous ne demandons qu'une chose, ajouta Navailles, c'est que notre illustre parent nous montre la route.
Puissant cousin, dit Chaverny, m'est-il permis de vous adresser humblement et modestement une question ? Qu'aurais-je à faire ?
À garder le silence et à me donner ta voix dans le conseil.
Dussé-je blesser le touchant dévouement de nos amis, je vous dirai, cousin, que je tiens à ma voix à peu près autant qu'à un verre de champagne vide. Mais...
Point de mais ! Interrompit Gonzague.
Et tous avec enthousiasme.
Point de mais !
Nous nous serrerons autour de Monseigneur, ajouta lourdement Auriol.
Monseigneur, ajouta Tarane, le financier d'épée, sait si bien se souvenir de ceux qui le servent.
L'invite pouvait n'être pas adroite, mais elle était au moins directe. Chacun prit un air froid pour n'avoir point l'air d'être complice. Chaverny adressait à Gonzague un sourire triomphant et moqueur. Gonzague le menaça du doigt comme on fait à un enfant méchant. Sa colère était passée.
C'est le dévouement de Tarane que j'aime le mieux, dit-il avec une légère nuance de mépris dans la voix.
Tarane, mon ami, vous avez la ferme d'Épernay.
Ah, prince ! Fit le traitant.
Point de remerciement, interrompit Gonzague. Mais je vous prie, Montaubert, ouvrez la fenêtre, je me sens mal.
Chacun se précipita vers les croisées.
Gonzague était fort pâle, et des gouttelettes de sueur perlaient sous ses cheveux. Il trempa son mouchoir dans un verre d'eau que lui présentait Gironne et se l'appliqua sur le front. Chaverny s'était rapproché avec un véritable empressement.
« Ce ne sera rien, dit le prince. La fatigue. J'avais passé la nuit et j'ai été obligé d'assister au petit lever du roi. »
Et que diable avez-vous besoin de vous tuer ainsi, cousin ? S'écria Chaverny. Que peut pour vous le roi ? Je dirais presque, que peut pour vous le bon Dieu ?
À l'égard du bon Dieu, il n'y avait rien à reprocher à Gonzague. S'il se levait trop matin, ce n'était certes point pour faire ses dévotions. Il serra la main de Chaverny. Nous pouvons bien dire qu'il eût payé volontiers un bon prix la question que Chaverny venait de lui faire.
« Ingrat, murmura-t-il. Est-ce pour moi que je sollicite ?»
Les courtisans de Gonzague furent sur le point de s'agenouiller. Chaverny eut la bouche close.
« Ah, messieurs, reprit le prince, que notre jeune roi est un enfant charmant. Il sait vos noms et me demande toujours des nouvelles de mes bons amis. »«
En vérité ?» fit le cœur.
Quand monsieur le régent, qui était dans la ruelle avec madame Palatine, a ouvert les rideaux, le jeune Louis a soulevé ses belles paupières, toutes chargées de sommeil. Et il nous a semblé que l'aurore se levait.
L'aurore aux doigts de rose, fit l'incorrigible Chaverny.
Personne n'était sans avoir un peu envie de le lapider. Notre jeune roi, poursuivit Gonzague, a tendu la main à son Altesse royale, puis m'apercevant,
Eh, bonjour, prince. Je vous ai rencontré l'autre soir au cours La Reine, entouré de votre cour. Il faudra que vous me donniez monsieur de Gironne, qui est un superbe cavalier. »
Gironne mit la main sur son cœur. Les autres se pincèrent les lèvres.
« Monsieur de Nocé me plaît aussi, » continua Gonzague, rapportant les paroles authentiques de sa majesté.
« Et ce monsieur de Saldagne, tue Dieu, ce doit être un foudre de guerre. »
« À quoi bon ceci ? » lui glissa Chaverny à l'oreille. « Saldagne est absent. »
On n'avait vu, en effet, depuis la veille au soir, ni monsieur le baron de Saldagne, ni monsieur le chevalier de Faenza. Gonzague poursuivit, sans prendre garde à l'interruption.
« Sa Majesté m'a parlé de vous, Montaubert, de vous aussi choisi, et d'autres encore. »«
Et Sa Majesté, interrompit le petit marquis, a-t-elle daigné remarquer un peu la galante et noble tournure de monsieur de Pérols ?»«
Sa Majesté, répliqua sèchement Gonzague, n'a oublié personne, excepté vous. »«
C'est bien fait pour moi, » dit Chaverny. « Cela m'apprendra. » »«
On sait déjà votre affaire des mines, à la cour, Albret, » poursuivit Gonzague.
« Et votre auréole, m'a dit le roi en riant, savez-vous comment l'a donnée comme étant bientôt plus riche que moi ?»«
Que d'esprit ! Quel maître nous aurons là ?»
Ce fut un cri d'admiration générale.
« Mais, reprit Gonzague avec un fin et bon sourire, ce ne sont là que des paroles. » Nous avons eu mieux, Dieu merci. Je vous annonce, ami Albret, que votre concession va être signée.
Qui ne serait à vous, prince ? S'écria Albret.
Auréole, ajouta le prince, vous avez votre charge noble. Vous pouvez voir d'osier pour votre écusson.
Le gros petit traitant s'enfla comme une boule et faillit crever du cou.
Auréole, s'écria Chaverny, te voilà cousin du roi. Toi qui es déjà cousin de toute la rue Saint-Denis. Ton écusson est tout fait. D'or aux trois bas de chausses d'azur, deux et un, et en cœur un bonnet de nuit flamboyant. Avec cette devise, utile dulci.
On rit un peu, sauf Auréole et Gonzague. Auréole avait reçu le jour au coin de la rue Mauconseil dans une boutique de bonnetterie. Si Chaverny eût gardé ce mot pour le souper, il aurait eu un succès fou.
« Vous avez votre pension, Navaille, » reprit cependant monsieur de Gonzague, cette vivante providence.
« Montaubert, vous avez votre brevet. »
Montaubert et Navaille se repentirent d'avoir ri.
« Nocé, » continua le prince, « vous monterez demain dans les carrosses. Vous, Gironne, je vous dirai quand nous serons seuls tous deux ce que j'ai obtenu pour vous. »
Nocé fut content, Gironne le fut davantage.
Gonzague, poursuivant le cours de ses largesses, qui ne lui coûtaient rien, nomma chacun par son nom. Personne ne fut oublié, pas même le baron de Batz.
« Viens ça, marquis, » dit-il enfin.
« Moi ? » fit Chaverny.
« Viens ça, enfant gâté. »«
Cousin, je connais mon sort, » s'écria plaisamment le marquis. « Tous nos jeunes condisciples qui ont été sages ont eu des satisfécites. Moi, le moins que je risque,
c'est d'être au pain et à l'eau.
« Ah » ajouta-t-il en se frappant la poitrine. « Je sens que je l'ai bien mérité. »
Monsieur de Fleury, gouverneur du roi, était au petit lever, dit Gonzague.
« Naturellement, repartit le marquis. C'est sa charge. »
« Monsieur de Fleury est sévère.
C'est son métier. »
« Monsieur de Fleury a su ton histoire aux feuillantines, avec mademoiselle de Clermont. »«
Aïe !» fit Navaille.
« Aïe ! Aïe !» répétèrent Auriol et consorts.
« Et tu m'as empêché d'être exilé, cousin ?» dit Chaverny.
« Grand merci !»«
Il ne s'agissait pas d'exil, marquis. »«
De quoi s'agissait-il, cousin ?»«
Il s'agissait de la Bastille. »«
Et tu m'as épargné la Bastille ?»«
Deux fois, grand merci !»
« J'ai fait mieux, marquis. »«
Mieux encore, cousin. Il faudra donc que je me prosterne. »
Ta terre de Chanaille fut confisquée sous le feu roi.
Lors de l'édit de Nantes, oui.
Elle était d'un bon revenu, cette terre de Chanaille.
20 000 écus, cousin. Pour moitié moins, je me donnerais au diable.
Ta terre de Chanaille t'est rendue.
En vérité ? S'écria le petit marquis.
Puis, tendant la main à Gonzague et d'un grand sérieux.
« Alors c'est dit, je me donne au diable. »
Gonzague fronça le sourcil. Le cénacle entier n'attendait qu'un signe pour crier au scandale.
Chaverny promena tout autour de lui son regard dédaigneux.
« Cousin, prononça-t-il lentement et à voix basse, je ne vous souhaite que du bonheur. Mais si les mauvais jours venaient, la foule s'éclaircirait autour de vous. Je n'insulte personne. C'est la règle. Dussé-je rester seul, alors, cousin, moi je resterai. »